Il est 18h en temps universel, 20h ici à Paris.
Guillaume Nodin.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal en français facile avec ce soir Namoury Dosso. Bonsoir Namoury.
Bonsoir à tous.
Dans l'actualité de ce mardi, il y a la mort de Johnny Clegg. Le chanteur sud-africain était surnommé le Zoulou Blanc et il était très engagé dans la lutte contre l'apartheid.
Ursula von der Leyen, confirmée par le Parlement européen, l'Allemande sera la future présidente de la Commission, mais il s'en fallut de peu.
Les tensions entre Iraniens et Occidentaux, l'ayatollah Khamenei annonce que son pays va continuer à réduire ses engagements nucléaires. Son chef de la diplomatie tend la main aux Américains.
En France, la démission de François de Rugy, le ministre de l'écologie, jette l'éponge après une semaine de révélations sur son train de vie et le financement de celui-ci.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
C'est une icône de la lutte anti-apartheid qui s'en va. Le Zoulou Blanc, Johnny Clegg, est mort à Johannesburg des suites d'un cancer. Johnny Clegg avait 66 ans. Mieux que personne, il a su marier les rythmes rock et ceux de l'Afrique du Sud pour combattre le racisme. Bonsoir Sébastien Gédor.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Namoury.
Malgré la censure et les arrestations par la police, Johnny Clegg avait acquis une stature de star mondiale.
Oui, dès l'enfance, Johnny Clegg s'est toujours senti un peu à part. Issu d'une famille de paysans juifs polonais, immigrés en Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe, le petit garçon vit un temps à Londres, puis en Israël. Mais c'est dans l'Afrique du Sud, de l'apartheid, qu'il grandit, ce qui ne l'empêche pas de se lier d'amitié avec le fils noir du chauffeur de la famille. À l'adolescence, Johnny Clegg fugue en pays zoulou, il disparaît pendant près d'un mois. Le jeune musicien brave en fait l'interdiction qui est faite aux blancs de fréquenter les noirs et inversement. Plus tard, il rencontre le guitariste et danseur zoulou Sipho Mchunu. Leur duo s'appelle Djuluka. Il sort un premier album censuré en Afrique du Sud. Le groupe va devoir donner des concerts clandestins dans des églises ou dans des foyers de travailleurs. Au milieu des années 80, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. C'est la période Savuka. C'est le deuxième groupe de Johnny Clegg. L'album Third World Child contient ce tube qu'on entend, Assim Bonanga, nous ne l'avons pas vu. C'est une chanson dédiée à Nelson Mandela qui est emprisonné à Robben Island. C'est la réédition d'un autre titre, Scatterings of Africa, en anglais et en Xhosa, qui fait de Johnny Clegg, qui danse comme un Zoulou, l'un des plus gros vendeurs de disques du monde. Après la fin de l'apartheid, Johnny Clegg a continué à enregistrer des albums et à se produire sur toute la planète. Se sachant malade depuis 4 ans, le Zoulou Blanc s'était lancé dans une tournée d'adieu, une tournée achevée quelques mois avant sa mort.
Les journaux en français facile.
L'actualité en France à présent avec la démission de François de Rugy.
Le ministre de l'écologie l'a présenté aujourd'hui au Premier ministre après une semaine de révélations dans la presse. François de Rugy, désormais ancien numéro 2 du gouvernement, dénonce d'ailleurs un lynchage médiatique. Il annonce qu'il porte plainte pour diffamation contre le site d'information Mediapart qui a publié ses révélations sur son train de vie et le financement de celui-ci entre dîners fastueux, travaux aux frais du contribuable ou encore utilisation frauduleuse de ses indemnités de député. Retour sur la série de révélations qui a conduit à cette démission. Pierre-Olivier.
Dernière enquête en date, publiée ce mardi par Mediapart, François de Rugy aurait utilisé son indemnité de député pour payer ses cotisations à son parti Europe Écologie Les Verts. Selon le journal en ligne, c'est même la liste de questions qui lui était adressée sur cette nouvelle affaire qui aurait précipité sa démission. François de Rugy était en effet sommé de s'expliquer sur l'utilisation entre 2013 et 2014 d'une partie de ses frais de représentation de député pour alimenter la caisse des Verts. En 2 ans, 9 200 euros d'argent public qu'aurait ainsi été versée sur le compte du parti écologiste. Quelques jours plus tôt, vendredi dernier, Mediapart révèle que François de Rugy n'a pas payé d'impôts en 2015. Rien d'illégal, précise le journal, qui détaille néanmoins la loi de l'époque qui permettait aux parlementaires de ne pas être imposés sur la totalité de leurs revenus. Enfin, il y a bien sûr les dépenses fastueuses prêtées à François de Rugy. Parmi elles, les fameux dîners par lesquels le scandale est arrivé. Entre 2017 et 2018, François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, aurait invité aux frais du contribuable des amis lors de fastueux dîners. Au menu notamment des grands crus et des homards géants, à l'origine de l'affaire devenue depuis le Homard Gate.
Cette démission ouvre une nouvelle période de vacances au ministère de l'écologie, 11 mois après la démission de Nicolas Hulot, et alors qu'Emmanuel Macron a fait de la préservation de l'environnement l'un des marqueurs forts de la suite de son quinquennat, le président de la République indique qu'il respecte cette décision personnelle pour que François de Rugy, 45 ans, puisse se défendre pleinement et librement.
C'est la première femme à prendre la tête de la commission.
L'Allemande Ursula von der Leyen a été désignée par une courte majorité de 383 voix, soit 9 voix de plus que le minimum requis par le Parlement européen. C'est la présidente de la Commission européenne la plus mal élue de toute l'histoire. Envoyée spéciale à Strasbourg, Anissa El-Jabri.
Sitôt élue, Ursula von der Leyen a appelé tous les eurodéputés à travailler ensemble de façon constructive et des élus disposés à coopérer avec elle. Elle va en avoir besoin, fragilisée Ursula von der Leyen par cette majorité étroite. Surtout avec un vote à bulletin secret, c'est bien sûr difficile de le savoir. Mais les Polonais du PiS et les élus 5 étoiles ont affirmé voter pour elle. Autrement dit, la candidate des chefs d'État et de gouvernement a été élue avec les voix des eurosceptiques et il lui a manqué beaucoup de voix dans son camp, plusieurs dizaines. À la sortie de l'hémicycle européen, on réclamait d'ailleurs chez les conservateurs un programme vraiment de droite. Comprendre les gages donnés à la gauche et les écologistes lors de son grand oral n'ont pas plu. Des écologistes qui n'ont pas voté pour la désormais présidente de la Commission. Cette élection étriquée, c'est leur responsabilité, dit-on chez les élus Renaissance. Une ambiance qui annonce des semaines à venir compliquées. Ursula von der Leyen doit désormais composer la Commission et la faire approuver par le Parlement. Anissa El-Jabri, Strasbourg, RFI.
L'Iran va certainement continuer à réduire ses engagements liés à l'accord nucléaire.
Le discours n'est pas nouveau, mais cette fois, c'est le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, qui parle. Les extraits du discours ont été diffusés par la télévision d'État iranienne. L'Iran a commencé à s'affranchir de certains engagements après le retrait américain de l'accord et le rétablissement des sanctions. L'ayatollah Ali Khamenei accuse les Européens de n'avoir tenu aucun de leurs propres engagements. Les Européens qui espèrent pourtant encore parvenir à une désescalade dans cette crise. La balle est-elle désormais dans le camp des États-Unis? Le chef de la diplomatie de la République islamique tend la main à l'administration américaine. S'il cherche une sortie respectueuse du contexte actuel, il y aura une solution, déclare Mohamed Javad Zarif sur la chaîne de télévision américaine NBC. L'Iran entretient donc un double discours. Sami Boukhalifa.
Au pays des Mollahs, il y a autant de communications diplomatiques qu'il y a de pouvoirs qui cohabitent. Alors que Mohamed Javad Zarif joue la carte de l'apaisement, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, fait tout le contraire. Il annonce que l'Iran va certainement continuer à réduire ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Il y a quelques semaines, Paris se saisit du dossier pour tenter de mettre un terme à l'escalade entre les Américains et les Iraniens. Selon une source diplomatique française, Téhéran a montré de l'intérêt pour cette initiative. Les propos du ministre des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif sur NBC semblent effectivement aller dans ce sens. Téhéran est disposé à tenir ses engagements. Mais pas question pour les Iraniens d'être les seuls à faire des concessions. Les sanctions infligées par Washington ruinent leur économie. Selon le chercheur Vincent Efling, Téhéran souhaite surtout pouvoir exporter son brut. Si la Maison-Blanche adoucit ses sanctions sur le pétrole, cela pourrait faire baisser les tensions d'un cran, analyse cet expert. Pour Paris, reste désormais le plus dur, convaincre Donald Trump d'infléchir également sa position.
La faim dans le monde touche de plus en plus de personnes.
C'est ce que nous apprend le dernier rapport de l'ONU publié ce lundi. 821 millions de personnes souffraient de sous-alimentation en 2018. C'est 10 millions de plus qu'en 2017. Et c'est le niveau d'il y a 10 ans. David Beasley, le directeur du programme alimentaire mondial, a été très clair en présentant cette étude. L'objectif, zéro personne souffrant de sous-alimentation alimentation d'ici 2030, objectif fixé par l'ONU, est désormais hors de portée. C'est l'Afrique qui est la plus touchée, avec 20% de sa population souffrant de la faim.